Bonjour mes frères et sœurs. Entendre la voix de Dieu, entendre un message ou entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vraiment entendre le Seigneur vous parler? J'aimerais que nous lisions quelques textes, s'il vous plaît. Dans Jean, au chapitre 12. Je vous encourage à prendre ces lectures. Je suis persuadé que le Seigneur, si c'est Dieu qui nous parle, elles sont nécessaires pour notre édification journalière. Je pense qu'il faut être sérieux et profond avec Dieu pour avoir des racines. Jean chapitre 12, verset 32. C'est Jésus qui parle. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, Marc 8, verset 31. Marc 8, 31. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Nous nous arrêtons sur cette parole. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Et un dernier texte dans l'évangile de Luc, à la fin des évangiles, de l'évangile, Luc 23, verset 26. Luc 23, verset 26. Comme ils amenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous. » Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Et la Bible parle, à la fin, je crois que c'est d'un spectacle, verset 48, spectacle. Je vais commencer à vous poser une question, parce que je pense que c'est beaucoup plus sérieux que ce que vous allez comprendre. Est-ce que la croix vous attire toujours? Ou est-ce que c'est une expérience du passé? Pour beaucoup de chrétiens, la croix, c'est un souvenir. D'ailleurs, quand vous regardez les commentateurs, les théologiens, même certains pasteurs, quand ils parlent de Jésus, ils parlent de Jésus comme ils parleraient de Confucius, de Bouddha. Et tout ça, ça met sur le même pied d'égalité toutes les religions. Aujourd'hui, c'est impressionnant, même dans nos églises, on est prêt, au nom de l'unité, au nom de la tolérance, à mettre tout ça ensemble, et tout se vaut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le problème et le danger que ça représente. Toutes les religions sont mortes, toutes. Le seul qui amène la vie, c'est Jésus-Christ. Il est la vie. Et si ce matin il est là, c'est pour manifester sa vie. Il vous connaît, il nous connaît, il sait ce dont nous avons besoin. On chante des cantiques plus merveilleux les uns que les autres, mais est-ce que vous croyez que Dieu, que le Seigneur Jésus est un Dieu de délivrance, un Dieu de consolation, un Dieu de paix, un Dieu de pardon, un Dieu de salut? Vous le croyez tout ça? Hier soir, je lisais quand il est écrit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole. Vous n'aimeriez pas que dans les jours qui viennent, le Seigneur travaille avec nous, parce que qu'on travaille nous pour Dieu, c'est une chose, mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on travaille pour Dieu qu'on sert Dieu. On peut faire plein de choses pour Dieu, dans plein de domaines, et courir, et s'agiter, et surtout s'épuiser, et ne pas servir Dieu. Et moi, ces temps-ci, ça fait quelque temps d'ailleurs, ces vacances ont été, j'ai eu encore plus de temps pour me tenir devant Dieu, encore plus de temps pour prier. Mais mes frères et sœurs, si le Seigneur ne peut pas confirmer sa parole, si le Seigneur ne peut pas agir comme il voudrait agir. Vous croyez que Dieu veut bénir? Vous croyez que ce matin, Dieu pourrait honorer la foi de n'importe qui d'ailleurs? Bien sûr. Si ces choses ne se produisent pas, il faut qu'on soit archi honnête. Parce que vous savez, chanter, écouter la trompette d'argent, c'est un beau cantique. Est-ce qu'elle est belle la mélodie de ce chœur? Elle est belle la mélodie. Même le trompettiste était excellent. Mais au-delà de la mélodie, est-ce qu'il y a vraiment cette soif de dire « Seigneur, je veux entendre ta voix. Tu as des choses à me dire, des choses à me rappeler. » Vous rendez compte aujourd'hui ce qu'est devenu le christianisme? Comment on parle de l'Église? Comment on parle du corps de Christ? Quelqu'un a dit, à juste titre d'ailleurs, j'avais apprécié ça, j'avais apprécié, oui, c'est triste, mais je l'avais apprécié, la pensée. Quelqu'un a dit aujourd'hui, le christianisme, c'est un christianisme sans Christ. Mais moi j'avais trouvé ça, enfin, excellent, parce qu'en une, 3-4 mots, vous comprenez ce qui se passe. Et si le calvaire, la croix, le sacrifice de Jésus-Christ ne nous attire plus, l'Évangile ne vaut plus rien. C'est plus l'Évangile. Vous vous rendez compte ce que Paul disait aux Corinthiens, j'en ai parlé la dernière fois que j'ai prêché ici, je ne veux savoir autre chose. Il connaissait tout, l'apôtre Paul. Ce n'était pas un idiot, c'était un intellectuel, un théologien, c'était un pharisien. Il était zélé comme ce n'est pas possible. Au-delà de son mauvais zèle, il y avait un zèle pour Dieu, il le faisait pour Dieu. Vous voyez, il se battait contre celui qu'il aimait, pour vous dire jusqu'où on peut en arriver quand on est aveuglé. Je ne veux savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Nous entendons dans notre mouvement, c'est évident, c'est normal. Nous entendons beaucoup dans notre mouvement l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit. Et on parle baptisé du Saint-Esprit, ça tient debout, c'est la volonté de Dieu. Mais moi j'ai supplié Dieu, écoutez-moi bien, on va entamer un sujet, je ne sais pas comment le Seigneur va me conduire. Moi j'ai été choqué, et je pense que je ne suis pas le seul, par la quantité de chrétiens qui sont... Allez, je veux être juste, qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui ont toujours un sale caractère. Est-ce que j'exagère?
Non.
Ça ne vous a pas choqué, ça? C'est grave. C'est grave pour la personne, parce qu'elle est profondément frustrée, si elle est honnête. Elle doit être profondément malheureuse, parce qu'elle cherche la vie de l'Esprit. Mais il y a un mois en arrière, oui, à peu près, j'étais dans mon bureau, je priais. Et je vous assure qu'il faut prier pour les pasteurs. Pour qu'on arrête de courir et qu'on cherche la parole de Dieu. Et je vous assure que les chrétiens, vous ne rendez pas service au pasteur quand vous dites « il faut visiter si ». Alors c'est vrai, si quelqu'un est en train de mourir, il faut aller le voir. On en fait des visites. Mais je peux vous dire qu'on empêche les serviteurs de Dieu de se tenir devant la face du Seigneur. Parce que comme je l'ai déjà dit, je le redis pour ceux qui ne me connaissent pas, et préparer une prédication, c'est une mince affaire. C'est une broutille pour un pasteur qui prêche depuis 10 ans, 15 ans, c'est une broutille. Mais obtenir la pensée de Dieu, croyez-moi que c'est une autre paire de manches, excusez-moi l'expression. Et ce que les chrétiens ont besoin dans toutes les églises du monde, parce que je pars du principe aussi, les gens vont dans les églises, même s'il y a de l'égarement, même s'il y a du trouble, même s'il y a de l'ignorance, due aux pasteurs qui n'ont pas pu se tenir devant Dieu, je pense quand même que la présence des gens dans l'Église prouve qu'ils ont soif de quelque chose. Oui ou non? Donc, il faut qu'on revienne à la croix. Paul ne dit pas « Je ne veux pas savoir autre chose que le baptême du Saint-Esprit. Je ne veux pas savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. » Et si nous prenions le temps, et ça c'est quand même le minimum, quand on aime quelque chose, on veut savoir ce que ça représente. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on aime quelque chose, on veut savoir. On prendra le temps. Beaucoup de temps. Si nous ne prenons pas ce temps, c'est qu'il y a un problème, il y a un aveuglement, etc. Mais quand vous regardez l'apôtre Paul, comment il parle, lisez l'épître aux Galates. Moi, c'est l'épître aux Galates qui m'a extrêmement interpellé. Parce que Paul parle de la façon dont il marche avec Dieu. Parce que quand même, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un, oui ou non? Vous vous rendez compte, ce terroriste, c'était un terroriste. Est-ce que vous vous rendez compte comment il est devenu? Et c'était hier soir que je priais, quand Dieu, je fais une parenthèse, mais c'est pour vous dire comment il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on cherche Dieu. Vous savez, quand le Saul de Tarse est tombé de son cheval, terrassé, il est parti dans une maison à Damas, et au bout de 3 jours, Dieu a dit à un frère de Damas, comment il s'appelait, Ananias, il a dit à Ananias, « Ananias, va à Damas, dans la rue qu'on appelle la droite, dans la maison de Judas, il y a un certain Saul de Tarse, il prie. » Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Je l'ai lu 100 fois, de 500 fois, c'est sûr. Et je me suis rendu compte combien Dieu est tout-puissant, encore une fois. Il sait où vous habitez, dans quel village, dans quelle maison. Il n'a pas besoin d'envoyer des inspecteurs pour savoir si vous y êtes. En tous les cas, quand vous priez, le Seigneur, il vous voit. C'est extraordinaire, cette parole. Il est dans la maison, la rue, là, tel endroit, dans la maison. Il connaît tout le monde. Vous savez que quand vous priez, Dieu vous voit, et ça lui plaît. Et on aura l'occasion, parce que là, je pense que ce n'est pas possible de comprendre certaines choses, ce n'est pas du tout du mépris. Je pense qu'il n'est pas possible, vraiment, de comprendre ce que Paul disait. On va lire un texte ou deux, regardez. On va lire un ou deux, il y en a des dizaines. Toute la vie de Paul converge vers sa crucifixion avec Jésus-Christ. Galates chapitre 5, par exemple, verset 22, parle des œuvres de la chair. Verset 22, il parle du fruit. Le fruit, c'est toujours le résultat. Le résultat de la branche ou des racines? Vous avez vu, en ce moment, il y a plein de fruits. C'est qui porte le fruit? C'est la branche ou la racine? Qui c'est qui le produit en tous les cas? Je sais que vous aimez que je sois précis. Mais c'est la racine qui produit le fruit. Ce n'est pas la branche. Et tout dépend de ces racines. Ce n'est pas là que l'on va être transformé. C'est des choses beaucoup plus importantes. Si la prédication changeait les gens, il y a longtemps que l'œuvre de Dieu serait faite. Croyez-moi, ce n'est pas la prédication qui change les gens. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de prendre ce verset et d'en faire quelques prédications pour bien comprendre ce que ça veut dire? Surtout que ceux qui vivent selon la chair, qu'est-ce qu'il est dit? Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ce n'est pas une question de salut, c'est une question qu'il n'y a pas d'approbation. Regardez plus loin, verset 14 du chapitre 6. C'est Paul qui parle, il est pétri de la crucifixion. Il vit quelque chose, il est resté au calvaire. Galates chapitre 6, verset 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. On va quand même lire notre texte. Regardez. C'est pour vous donner une idée du but que nous devrons nous aussi atteindre si nous voulons que Dieu se manifeste. Pourquoi Dieu se manifestait-il autant dans la vie de Paul, à tel point que quand il était à... C'est où qu'il était ? À Athènes ? Quand, oui, à Athènes. Quand il y a des Juifs qui ont dit, ces hommes, en parlant de Paul et de Silas, ils ont bouleversé le monde. Et mes frères et sœurs, moi j'ai demandé à Dieu qu'il me parle, parce qu'en plus je sais, je connais la Bible. Vous savez, c'est pas parce qu'on prêche qu'on obéit, c'est pas parce qu'on prêche qu'on est spirituel, vous le comprenez bien ça. J'ai demandé à Dieu qu'il me parle. Je vous l'ai dit l'autre jour, j'ai fait une petite allusion par rapport à ce drame que l'on rencontre dans le mouvement, notre mouvement par excellence, puisqu'on est le mouvement de Pentecôte. À savoir, qu'est-ce que c'est qui manque à l'Église ? Qu'est-ce qui manque pour que Dieu confirme sa parole ? Qu'est-ce qui manque pour que Jésus-Christ approuve ? Parce que c'est ça qu'on a besoin, d'approbation divine. Vous voulez que tous vos enfants soient sauvés ? Ce n'est pas en les faisant danser qu'on va les amener au calvaire. Hein. Et vraiment, je vous assure, parce que la Bible, qu'est-ce qu'elle dit ? Demandez et recevrez. Quel est le Père ? En plus, Dieu nous dit, si méchants comme vous êtes, vous savez demander, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent ? Et en méditant ces textes que vous connaissez, que je cite souvent, j'ai compris qu'il y avait la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous console, le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous rappelle, c'est écrit tout ça, etc. Le Saint-Esprit agit lorsqu'on obéit, joyeusement, parce que l'obéissance pour l'obéissance, ça fait des gens légalistes qui ont fait plus de dégâts qu'autre chose. Et vraiment, j'ai compris en lisant la vie de Paul qu'il n'y a pas que le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit fait certaines choses, c'est évident. Et surtout ce que nous, on ne peut pas faire. Mais il y a des choses, c'est à nous de les vivre. Et quand Paul parle de son ministère, vous savez, il y a un moment de ça, parce que ça s'est passé quand ma mère était en train de mourir. Je ne dormais pas une nuit. Je ne dormais pas, je savais qu'elle allait mourir, je savais qu'elle était prête, etc. Vous savez, c'est des moments émouvants, ça, quand on sait que quelqu'un va mourir. Vous avez connu tout ça, plus ou moins. Et je ne dormais pas, j'étais parti dans une chambre à côté. Et je priais. Vous savez, quand on prie, je disais, mais Seigneur, manifeste ta vie. Vous savez, ça vous est déjà arrivé de prier en boucle ? Seigneur, manifeste ta vie. Ça vous est arrivé de demander la même chose 100 fois de suite ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Bon. Et je priais ainsi. Seigneur, manifeste ta vie. Je ne pensais pas à la guérison de ma mère. Je pensais à tous les gens qui sont perdus. Parce que les chrétiens qui meurent, franchement, c'est quand même aussi une bénédiction, oui ou non ? Mais les pécheurs qui meurent. Et je disais, Seigneur, manifeste ta vie, manifeste ta vie. Et j'ai fait comme on fait des fois, vous savez, j'étais dans mon lit, c'était 4 heures du matin, j'ouvre ma Bible et je tombe sur ce texte de 2 Corinthiens chapitre 4, que j'ai lu des centaines de fois. Et je vous assure, j'étais réveillé. Mais je l'ai été encore plus. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, un chapitre qui encore une fois rappelle ce que Paul vit. Il vit quelque chose. Il vit quelque chose qui amène la faveur divine. 2 Corinthiens chapitre 4, on va lire à partir du verset 7. Je vous assure, imaginez-vous, ça faisait 10 minutes que je dis, Seigneur, manifeste ta vie, manifeste ta vie. Vous savez, quand on est seul, des fois, on est plus libre. Vous savez comment c'est quand on est tout seul ? Soyons honnêtes, même si on est vrai quand on est avec des frères et sœurs, quand on est tout seul, on se lâche un peu plus. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, manifeste ta vie. Vraiment, vraiment, parce que je pensais à nos enfants qui ne sont pas convertis, je pensais à nos familles, etc. Lisez-le avec moi, regardez bien. Il faudra qu'on y reviendra. C'est une introduction à cette affaire. De Corinthiens 4, verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Alors, ce n'est pas forcé qu'on soit dans ces choses-là, non. Persécuté, on n'est pas persécuté. Mais est-ce que, par exemple, l'abondance ne peut pas être un piège aussi grave? Les plaisirs de la terre, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus? Il dit que vos cœurs ne se laissent pas appesantir par les excès du manger et du boire. Les excès du manger et du boire, c'est une bénédiction d'avoir à manger? Est-ce que ça peut devenir un piège? Vous voyez, alors il faut pas de suite s'identifier à ça. Paul vivait ses choses, mais regardez justement, quoi que ce soit que l'on vive, de toute façon, tout peut nous éloigner de Dieu, autant la bénédiction que l'épreuve. Persécuté mais non abandonné, verset 10, regardez bien. Ça sera la clé, l'aboutissement de ces prédications. Portant toujours, ce n'est pas le jour de la conversion, avec nous dans notre corps, la mort de Jésus. On ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, là. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Ça faisait un quart d'heure que je priais, manifeste ta vie, manifeste ta vie. Et je peux vous dire que ça a été un électrochoc. Afin, je relis, que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans nos corps. Ce n'est pas fini. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Encore une fois, vous voyez. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et je me suis tué un moment parce que j'avais compris. Vous savez, prier, ce n'est pas forcément parler. Vous pouvez vous taire et réfléchir. Et j'ai compris ce que l'apôtre Paul vit. Il faut relire les épîtres. Et c'est vrai que le Seigneur a ce pouvoir de manifester sa vie. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Pourquoi on est là ce matin? Sincèrement, ce n'est pas une question piège, une question bête, vous voyez. Pourquoi je suis là ce matin? Pourquoi tu es là, mon frère? Parce que tu as peur de Dieu, parce que tu es superstitieux, parce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Vous devez répondre. En tous les cas, il entend votre réponse. Même si moi, je ne l'entends pas, et c'est très bien. Pourquoi je suis là ce matin? Pourquoi je suis là? Vous vous rendez compte de ce verset qu'on a lu? Jésus qui dit que lorsqu'il aura été élevé de la terre, lorsqu'il remontera au ciel, ressuscité, glorifié, dans son ministère d'un plus de souverain sacrificateur, d'intercesseur, parce qu'en plus il prie pour nous, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé, mais ça veut dire que le Seigneur a le pouvoir d'attirer tous les hommes. Vous le croyez ça? N'importe qui. Les riches, les pauvres, les athées, les intellos, les analphabètes, tout le monde. Les clochards, tout le monde. Est-ce que Dieu peut attirer n'importe qui? Oh, mais moi, vous savez, pour ma fille, c'est pas possible. Non, c'est impossible, monsieur Gou, ma fille, elle est trop bête, elle est dure, elle n'écoute rien, ça me durcit. Si vous saviez comment elle est, eh bien, c'est de l'incrédulité. Et c'est de l'ignorance, parce que vous n'êtes peut-être pas arrêté sur ce verset. Quand Jésus dit « j'attirerai tous les hommes à moi », ça veut dire que n'importe qui, à partir du moment où il y a l'approbation de Dieu dans une église, dans une vie, Dieu peut l'attirer. C'est pour ça que Jésus enseigne, mais c'est moi, c'est le Saint-Esprit qui convaincra de péché. Et nous, on essaie de convaincre les gens avec des discours appropriés ou des témoignages qui ne sont pas forcément mauvais. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Vous comprenez l'importance de vivre ces choses. Au-delà du baptême du Saint-Esprit, moi je suis souvent, même ici, souvent les gens, le baptême du Saint-Esprit. Écoutez-moi, il n'y a pas que le baptême du Saint-Esprit. Il y a la mort à soi-même. Il y a la crucifixion de la chair. Il y a la crucifixion du monde. Il y a la victoire sur Satan. Parce qu'est-ce que vous y croyez à la victoire sur Satan? Eh oui. Ça, c'est de notre sujet. Mes frères et sœurs, notre foi, elle doit être vivante. Vous entendez? Notre foi, elle doit être vivante. Beaucoup de gens croient en Dieu. Moi, l'autre jour, j'étais dans une église, il y a une jeune fille qui est venue me voir. Elle me dit, voilà, en fait, je priais pour que ceci, pour ça. Je dis, mais il faut arrêter. Moi, je dis, non. Parce que le Seigneur me l'a montré. J'ai dit, il faut faire confiance en Dieu.
Vous croyez en Dieu, mais vous ne lui avez pas confiance. Ça va détruire votre vie. Il y a plein de gens, peut-être même ce matin au milieu de nous, ils croient en Dieu. Ils croient que Jésus est mort sur la croix, bien sûr, mais ça ne change rien. J'en ai souvent parlé, je ne vais pas revenir dessus. Combien de gens croient en Dieu et n'ont pas une pleine confiance? Vous avez vu que vous comprenez la différence? Je le lisais ce matin. Paul dit, nous avons toujours une... Il ne dit pas la pleine confiance, il dit une pleine confiance. Moi, quand je vois quelqu'un... Écoutez, je vous le dis parce que moi, je suis qu'un chrétien. Même si je prêche, je suis qu'un chrétien, vous le comprenez. Mais quand je vois, moi, des chrétiens qui parlent en langue et qui sont remplis d'incrédulité, son intervention dans le cœur des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi. Ils ont obéi, se sont tus. C'est sûr que s'ils avaient parlé, heureusement que Dieu leur avait demandé de se taire. De temps en temps, c'est bien de se taire. Alors, qu'est-ce qui vous attire à la croix? Qu'est-ce qui vous attire, au fait? Est-ce que la croix vous attire toujours? La croix, pour beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, je ne sais pas combien, ça doit être très grave au niveau du pourcentage, la croix n'a été nécessaire que pour obtenir le pardon des péchés. Point barre. Et la majorité des chrétiens ont une idée de la croix. La croix, c'est j'obtiens le pardon des péchés. Jésus-Christ est mort pour moi. C'est une, j'allais dire, expérience. Non, pour certains, c'est juste de la doctrine. Ils savent que c'est biblique. L'expérience de la croix, c'est quoi pour vous, pour nous? Une doctrine? Doctrine, la doctrine de la rédemption, c'est quelque chose. Ou c'est une expérience? Est-ce que c'est une expérience qui dure? Est-ce que c'est une expérience qui remonte aux années de conversion? Oui, je me souviens le jour où j'ai été touché par la prédication de la croix. Vous vous rendez compte que Paul dit aux Corinthiens, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Et moi, je vous assure, je prie, je cherche Dieu, je demande à Dieu qu'il m'inspire. Moi, je l'ai déjà dit, bon, je le répète. Hein. Moi, je n'ai pas envie de bien prêcher. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, Paul disait, ce n'est pas, quand je suis venu vers vous, ce n'est pas avec les discours persuasifs de la sagesse. Vous vous rendez compte, c'est les discours persuasifs de la sagesse de Saint Paul. Ça devait être bien. Il y aurait des gens qui auraient dit, oh, que c'est bien. Et qu'est-ce que tu as compris? Rien. Il dit, ce n'est pas par une démonstration... Par les discours persuasifs de la sagesse, c'est par une démonstration de puissance. Est-ce que nous voulons, dans l'Église de Jésus-Christ, qui va bientôt être enlevée, terminer avec cette onction du Saint-Esprit? Est-ce que ça vous intéresse, l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que vous dites, oh, mais il faut qu'il se passe quelque chose? Il faut que je redécouvre la croix? Moi, je vous assure, j'en suis là. J'en suis là, 33 ans que je prêche, et je demande à Dieu tous les jours, je veux redécouvrir le calvaire, je veux comprendre quand tu as dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge tous les dimanches matin de sa croix et qu'il me suive. Mais pour beaucoup de chrétiens, avouez que c'est la vérité. Quand ils chantent, je n'ai que toi, c'est pas vrai. Espérons que ça se deviendra vrai, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand vous voyez comment les chrétiens cherchent la distraction dans le monde, laissez-moi vous dire qu'il faudrait arrêter de chanter « Je n'ai que toi ». L'apôtre Paul a vécu cela. L'apôtre Paul a vécu quelque chose. Et moi, je voudrais que dans cette église, où Dieu nous a placés, parce que c'est Dieu qui nous y a placés, nous puissions vivre la manifestation de la vie veillée de Jésus-Christ. Il y en a qui sont d'accord? Est-ce que nous aimerions avancer dans ce chemin et pouvoir dire, mais ce n'est plus moi qui vivrai? Parce que ça, c'est beaucoup un slogan. Moi, je l'ai chanté au début de ma conversion, je vous assure que c'était un cantique, c'était un slogan. Quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez ce qu'il dit juste au-dessus? Je l'ai fait exprès de ne pas le dire avant. Quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qu'il dit juste au-dessus? C'est après. Vous êtes renvoyé vers Geneviève. Il faut répondre comme il faut ici. Alors, on va le lire. C'est dans Philippiens. Regardez ce qu'il dit. Attendez, j'espère que je ne me trompe pas. Galates, oui, pardon. Galates 2:20. C'est bien, merci. Je te garde l'un de plus. Galates 2:20, Nicolas. Moi qui avais l'intention justement de... Galates 2:20, regardez. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Vous rendez compte? Est-ce que franchement, il y a quelqu'un dans l'Église? Ne répondez pas, hein, répondez au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait en arriver là? pouvoir dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rendez compte ce que cela produirait dans une église? Mais regardez ce qu'il dit juste avant. Mais ça vaut la peine de s'arrêter, je vous assure, sur tous ces versets. Regardez ce qu'il dit avant. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je parle en langue. Je prêche bien. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que vous réalisez? Alors, je vous assure, quand on va prendre tous les textes, vous allez voir que tout baigne. L'épître aux Galates, vous pouvez l'appeler l'épître de la croix. Tellement, ça ressort. Paul, il a vécu ces choses. Oui, il a été crucifié. Revenir au calvaire, regarder de tout à nouveau avec les yeux de l'âme ce qui s'est passé au calvaire. Est-ce que vous pensez tout connaître sur le calvaire? Ouvre mes yeux, Seigneur. Est-ce que c'est une prière qu'on peut faire après ce culte, Seigneur? Ouvre mes yeux sur le calvaire. Moi, je vous assure, je supplie Dieu, je le supplie. Vous allez me dire, mais t'es converti ou quoi? Mais écoutez-moi, mes frères, je supplie Dieu qu'il m'ouvre les yeux sur le calvaire. Vous vous rappelez tout le nombre de fois où Jésus, dans sa sollicitude, sa tendresse, leur a dit il faut que le Fils de l'homme meure, qu'il soit crucifié, livré par les mains des sacrificateurs et qu'il ressuscite le troisième jour. Vous vous rappelez, il l'a répété parce qu'il fallait qu'ils l'entendent. Ils l'entendaient, mais ils ne l'ont jamais cru. La preuve, c'est que même quand Marie de Magdala est revenue du sépulcre et leur a dit, mais vous ne savez pas, il est vivant, il est ressuscité, il est écrit formellement, ils ne la crurent pas. Donc, qu'il n'ait pas cru à elle, d'accord, mais ils auraient pu le croire à lui. Et je pense, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, que de la même manière que nous pouvons dire quand même, ces apôtres, c'était les hommes de Dieu, des pasteurs choisis pour changer le monde, mais non, ils en sont là. Mais est-ce que nous ne serions pas au même niveau de ne pas comprendre vraiment l'œuvre de la croix? Moi, je vous assure, mes frères et sœurs, si nous voulons qu'il se passe quelque chose, je me répète, si nous voulons qu'il se passe quelque chose dans le royaume de Dieu, il faut revenir au calvaire. Il faut revenir au calvaire. Thomas a été changé, comment? Il n'était pas là à la résurrection, il était certainement découragé, encore plus que les autres, puisqu'il n'était pas dans la chambre haute. Il y a des degrés de découragement. Il n'était pas là. Et Jésus est revenu 8 jours après. Béni soit Dieu pour sa patience, comme le disait le don spirituel, que la patience de Dieu est notre salut. Merci Seigneur pour sa patience. Mais mes frères et sœurs, Jésus revient 8 jours après. Pour qui revient? Il revient surtout pour Thomas. Parce que Thomas n'allait pas bien, il était découragé. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Est-ce que Jésus lui a fait un gros sermon? Jésus a dit à Thomas, Thomas, avance et regarde mes mains. Et mets-la dans mon côté. Je ne sais pas s'il l'a fait, je ne suis pas sûr. C'est parce que des gens disent qu'il l'a touché, ce n'est pas écrit. Enfin, qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait, il a de suite reconnu que Jésus-Christ était Dieu. D'ailleurs, il a dit ce qu'une sœur disait tout à l'heure dans sa prière, « Mon Seigneur et mon Dieu ». À tel point, vous voyez, ça a marqué l'histoire que des millions de chrétiens, quand ils prient, disent « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il n'était pas que le Seigneur, il était le Dieu. Vous croyez que Jésus est Dieu? Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, c'est que vous n'avez pas été touché par la grâce. Vous êtes, ou alors c'est intellectuel, le Seigneur Dieu est venu sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ. Moi, c'est ça qui m'a bouleversé. Alors, qu'est-ce que je vois à la croix? Est-ce que je vois toujours quelque chose? Ou est-ce que mon cœur, et là c'est quelque chose de grave ce que je vais dire, ou est-ce que mon cœur est devenu de pierre? Est-ce que, je vais vous poser une question simple, est-ce que ça vous plaît que je vous prêche sur la croix? Ou est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous n'auriez pas préféré une autre prédication sur un sujet que vous n'avez pas encore abordé? Ou est-ce que ça vous agrée que je prêche sur la croix? Si la prédication de la croix ne vous touche plus, mettez-vous à genoux chez vous et repentez-vous. Parce qu'il faut que la prédication de la croix nous touche, mes frères et sœurs. Quand on regarde tous les textes, beaucoup de textes, Jésus a été appelé par exemple l'homme de douleur. Le Saint-Esprit a voulu que l'on sache. Bien sûr que Jésus avait une joie, il a tressailli de joie, je ne vais pas parler de la joie, on ne peut pas évoquer tout. Jésus avait une joie. D'ailleurs, avant de mourir, il a dit « Je vous donne ma joie ». Le Seigneur était avec la joie, la vraie joie. Quand on obéit et quand on est à la volonté de Dieu, on ne peut pas ne pas avoir la joie. Mais il est appelé l'homme de douleur. Pourquoi ? Parce qu'il a souffert. Il a souffert ce qu'un homme n'aurait pu souffrir. Il n'a pas souffert qu'au calvaire, le Seigneur. Est-ce qu'il a souffert qu'au calvaire, après vous ? Vous savez, quand sa famille, sa propre famille, ses frères et sœurs, sa mère, Marie, on dit, mais il est hors de sens. Il est hors de sens. Vous ne croyez pas que c'est une souffrance quand la famille vous rejette ? Oui ou non ? Vous l'avez peut-être déjà vécu. Et je pense, frères et sœurs, que nous pouvons demander à Dieu qu'il nous enseigne. Alors, je vais le dire parce que c'est facile à comprendre, mais ce n'est pas ça. À lire entre les lignes. Comprendre que Jésus, par exemple, n'a jamais étalé ses souffrances. Il a dit qu'il fallait qu'il souffre. Est-ce qu'il aurait pu en parler davantage de ses souffrances ? Franchement, vous ne croyez pas que ça aurait été nous, on aurait fait tout. La Bible serait épaisse comme ça. Rien que pour parler des souffrances qu'on allait subir, parce qu'il fallait que les gens... Non, Jésus a été très sobre. Le Saint-Esprit est très concis dans la façon de présenter les choses dans la Bible. Je prends un exemple. Vous savez que Pierre s'est targué de ne pas renier les autres, oui, mais moi, non. Vous connaissez cette affaire. Et quand Pierre a renié Jésus, il est juste écrit, Jésus regarda Pierre. Il pourrait y avoir trois chapitres. Vous comprenez, je veux dire. Et ça n'aurait pas été incorrect. Trois mots. Jésus regarda Pierre. Et pourtant, n'oublions pas que Jésus était en train d'être abandonné par tous ses amis, dont Pierre était un de ses meilleurs lieutenants. Vous êtes d'accord avec moi ? Trois mots. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que cette exhortation sur la croix doit nous amener à comprendre qu'on ne peut pas lire n'importe comment la Bible. Il faut lire trois chapitres par jour. L'autre jour, quelqu'un me dit « Ah, moi j'ai un lexique pour 30 jours. » Mais il est faux quand même. Hein. J'ai un lexique pour lire la Bible dans une année. Trois chapitres par an, et c'est vrai qu'en trois chapitres par an, vous avez lu la parole de Dieu. C'est bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas pour ça, laissez-moi vous dire, que vous aurez fait des progrès avec le Seigneur. Et je crois qu'on peut demander au Seigneur, sanctifie mon intelligence, apprends-moi à comprendre souvent ce qu'il y a un mot. Quand il est dit, un autre mot, quatre mots. Pilate le fit battre. Pilate le fit battre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que, vous rendez compte de toute la douleur que ça peut représenter ? Pour vous ? Pour toi ? Pour moi. Pilate le fit battre. Il fut crucifié. Trois mots. Vous rendez compte tout ce que ça représente. Des milliers de livres ont été écrits sur la crucifixion de Jésus. Et pourtant, dans la parole de Dieu, c'est résumé en trois mots. Il fut crucifié. Qu'est-ce que je vois au calvaire ? On a chanté tout à l'heure ce merveilleux cœur. Si j'oubliais Gethsémané. Eh oui, Gethsémané, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémané ? Une parole, tiens, vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que Jésus a dit à Gethsémané ? Que ta volonté soit faite et non la mienne. Est-ce que c'est une prière que je peux faire dans la douleur, dans l'épreuve, dans le combat ? Dans le combat, il dit, j'en ai marre, excusez-moi l'expression, je fiche le camp de l'Église, c'est fini. Dans la douleur la plus intense, Jésus a dit, alors qu'il a fait toute sa vie la volonté de Dieu. Attention, en plus. Et comment ? Il dit que ta volonté soit faite. C'est ça la croix. C'est ça, comprendre la croix. Et je voudrais que Dieu m'inspire. Et il faut prier pour moi. Vous le faites ? Il faut vraiment prier. C'est une affaire sérieuse parce que la manifestation de la vie de Jésus-Christ passera par là. Par la compréhension de la croix. Vous voyez, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, parce que j'ai été crucifié avec Christ. On verra souvent qu'en inversant les versets, on comprend peut-être mieux, parce que c'est devenu des slogans. Mais ça, on le fera plus tard. Il fut crucifié. Et il faut lire l'évangile de cette façon, Seigneur. C'est pour ça que j'ai pris juste ce verset dans Marc. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. C'est très concis. Mais c'est écrit. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Pourquoi il fallait qu'il souffre beaucoup ? Combien de gens lisent, ils oublient. Il y a des gens qui rient quand on parle du Seigneur. Il n'y a pas des moqueurs dans le royaume de Dieu ? Il n'y a pas des gens qui blaguent avec l'histoire de la Bible ? Il n'y a pas des gens qui s'amusent avec la parole de Dieu ? Hein, ça vous montre. Alors moi, avant, ça m'énervait, maintenant, ça me fait peine. Parce que ça vous montre que les gens, ils n'ont pas le respect de la parole de Dieu. Jacques en parle, vous lirez Jacques chapitre 1er et vous verrez combien Jacques parle de ceux qui écoutent la parole et qu'ils oublient aussitôt. Voilà le verdict. Ils lisent la parole, mais ils ne plongent pas le regard. Et je crois qu'en ce qui concerne la croix, mes frères et sœurs, il faut qu'il se passe quelque chose si nous voulons voir le Saint-Esprit agir. La souffrance de Jésus, quand vous regardez à la croix, elle est volontaire. Des fois, on dit que c'est un martyr. Alors, je ne voudrais pas que vous pensiez que je joue sur les mots. Les martyrs, souvent, c'est vrai qu'il a été martyr. Mais c'est un sacrifice. Est-ce qu'il l'a voulu, cette souffrance? Ou est-ce qu'on la lui a imposée, ou est-ce qu'il l'a voulu? Il l'a voulu. C'est un sacrifice. Souvent, on dit, telle personne a été martyr. C'était obligé. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a crucifié, on a crucifié des chrétiens, on a mis des chrétiens dans les arènes, on a brûlé un chrétien. Ça, c'est un martyr. Mais Jésus, on ne peut plus parler d'un sacrifice. D'ailleurs, la Bible parle d'un sacrifice. C'est comme à Noël quand on dit Jésus est le cadeau. C'est pas un cadeau. C'est une erreur, ça. Jésus est un cadeau aux enfants, on dit voilà. C'est pas un cadeau, Jésus. C'est un don. Vous allez me dire, monsieur Gau, vous jouez sur les mots. Non, je ne joue pas sur les mots. Ce n'est pas un cadeau, le petit Jésus. C'est un don du ciel. Et toutes ces choses, je pense qu'au calvaire, elles se révèlent. Est-ce que vous avez envie que Dieu vous ouvre les yeux? Moi, oui. Moi, je supplie Dieu. Je supplie Dieu qui m'ouvre les yeux. Pour que vraiment je comprenne la croix. Parce que je sais que c'est à la croix. Et au baptême du Saint-Esprit qui nous maintiendra à la croix. Je pense quand même qu'il faut être maintenu à la croix, au calvaire. Mais Jésus n'a pas été victime, qu'on le dit. Moi, j'ai lu des trucs à Noël, vous savez, sur des bouquins sur la crucifixion. Ça m'irrite et en même temps, ça m'intéresse. Parce que je vois combien les gens ne connaissent pas Dieu. Il s'est livré. Il a voulu mourir. Il a donné sa vie. Il ne s'est pas enfui, même si sa famille l'a rejeté. Même si ses amis l'ont rejeté. Est-ce que ses amis l'ont rejeté? Il y en a même un qui l'a vendu. Un de ses amis qui l'a vendu, le Seigneur, pour 30 pièces. Quelle honte en plus. 30 pièces, c'était le prix des femmes. 50, c'était le prix des hommes. Mais voyez jusqu'où le diable a poussé l'humiliation. Ils auraient pu le vendre aux 50 pour 30 pièces. Mais franchement, voyez, c'est une honte. Une honte! Le prix d'une femme. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on est tous égaux. Mais mes frères et sœurs, quand même, c'est une humiliation de plus. Et c'est pour ça qu'à la croix, vous comprenez ces choses. Avec ses disciples, regardez, avec les pharisiens qui l'ont traité de Belzébuth. Vous vous rappelez? Lui, le prince, le fils de Dieu, ils l'ont traité de tout. On y reviendra peut-être. Ils l'ont traité de tout et il n'a rien dit. Il n'a pas ouvert la bouche. Quand on l'injuriait, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait quand on l'injuriait? Quand on l'injuriait, il s'en remettait au Père. C'est écrit. Quand on le calomniait, qu'on calomniait le Seigneur, vous vous rendez compte? À nous, on peut nous critiquer parce qu'on est critiquable. Mais le Seigneur, il n'y avait rien. On l'a traité d'orgueilleux, lui qui était humble de cœur, etc. Comment Judas l'a traité? Comment Caïphe l'a traité? Comment Pilate l'a traité? Comment Hérode l'a traité? Comment les Juifs, les gens de sa propre nation l'ont traité? On n'a pas lu le texte, mais ils hurlaient, Pilate voulait le relâcher. Et non, crucifie-le, crucifie-le! Ils crièrent encore plus fort et leurs cris l'emportèrent. Pour vous dire qu'en enfer, il y a des gens qui savent prier, croyez-moi. Quelle souffrance que Jésus a subie pour que nous soyons sauvés et pardonnés. Quand on lui propose du vin mêlé de fiel, vous connaissez cette histoire? Il y avait un petit peu de compassion pour les criminels qui étaient crucifiés. Pour abréger leur souffrance, il y avait un vin qui était mêlé, vous savez, on ne sait pas ce que c'est, du vin qui était mélangé avec du fiel et on le donnait à boire pour atténuer la souffrance. Jésus n'a pas voulu le prendre. Vous rendez compte? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il voulait aller jusqu'au bout. Les injures, la moquerie. Il y a des gens qui rétrogradent parce qu'on leur a pas dit bonjour. Moi, j'ai vu à Tahiti, une fois, j'ai recroisé une femme dans la rue. Elle me dit, ah, monsieur Gauche, je ne suis pas venu à l'église parce qu'on ne m'avait pas dit bonjour. Dedans. En plus, je n'avais pas vu. Des fois, on parle avec quelqu'un, des fois, quelqu'un passe. Ce n'est pas volontaire. Mais quand vous voyez des gens qui rétrogradent, parce qu'on n'a pas salué, on ne les a pas salués dans l'église, vous comprenez bien que la croix est loin, très très loin. Les larmes de sa mère à la croix. Est-ce que sa mère a pleuré, Marie? On ne parle pas toujours Marie. Demain, on en parlera. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'était une douleur, ça, les larmes de Marie? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, votre fils est en train de mourir comme ça. Même si elle avait été prévenue par le prophète, comment il s'appelle, Siméon, qu'une épée lui transpercerait le cœur. Quand même. Est-ce que vous vous rendez compte, cette femme en train de voir son fils mourir sur la croix, avec toutes ces injures, parce qu'il faut voir, ces religieux-là, c'était pas leur place. Croyez-moi qu'avec la loi de l'Ancien Testament, c'était pas leur place d'être là à côté des gens en train de mourir. Croyez-moi. Mes frères et sœurs, vous savez, en plus, ça s'est passé dans un contexte géographique compliqué. Il est dit, dans Matthieu 27, 45, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Ça s'est passé dans les ténèbres. Lui, la lumière, il est dans les ténèbres. Mais la plus grande souffrance que Jésus a pu supporter, c'est quand il a dû dire « Mon Dieu ». Vous savez, quand il priait, il disait « Père ». Mais là, il ne dit pas « Père ». Il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je pense que même si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, même si nous faisons des progrès avec Dieu, je ne pense pas qu'on est capable de comprendre la souffrance intérieure. On peut comprendre la souffrance physique en quelque part, vous voyez, la crucifixion. Je pense que la souffrance physique, on peut arriver à la comprendre. Mais je ne pense pas qu'un chrétien sur la terre est capable, à moins qu'il soit inspiré par Dieu, comme Saint Paul peut-être, mais de comprendre vraiment la souffrance intérieure que Jésus a subie pour porter tous nos péchés. Il portait les péchés du monde. Vous vous rendez compte? Et pour le Seigneur Jésus, je pense qu'il n'y avait pas de douleur plus grande que l'absence de Dieu. Nous, on est habitués, hélas. Mais pour Jésus, c'était la douleur la plus grande que Dieu l'abandonne. Vous vous rendez compte quand on l'a percé? Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand on l'a percé? Qu'est-ce qui s'est passé quand on a percé Jésus avec une lance? Ce matin, il est sorti? Du sang et de l'eau. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Et j'ai prié Dieu. Et j'ai compris. C'est que le sang, il avait tout donné. Pour qui? Pour toi. Il n'y avait même plus une goutte de sang. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors tout ça, vous allez me dire, mais où tu veux en venir? Oui, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il faut qu'on le sache. Mes frères et sœurs, la manifestation de la vie de Jésus-Christ passe par là, passe par le calvaire. Et devant ces paroles que je vous adresse, que je rappelle, que je vous re-rappelle et que je pense vous rappeler pas mal dans les jours à venir, mes frères et sœurs, il faut que nous nous courbions. Vous aimez vous courber devant Dieu? Est-ce que vous aimez vous courber? Ou est-ce que vous êtes de ceux qui vociférer, injurier. Il y en a des chrétiens. Vous savez, quand on dit oui, si Dieu était présent, il ferait ci, si Dieu nous aimait. Ouais, ça s'appelle des injures dans la Bible, ça. Vous ne le saviez peut-être pas, mais moi je vous le dis. Et je peux vous le prouver. Parce que c'est écrit. Alors il y a ces crachats, ces gifles, la couronne d'épines, la flagellation, la mort solitaire, l'abandon de tous ses amis. Un seul but, attirer tous les hommes. Moi, c'est ce que je voudrais, que dans cette ville de Toulouse, des multitudes soient attirées. Il veut le faire. Il peut le faire. Vous entendez, mes frères et sœurs? C'est lui qui le fera. Si dimanche prochain, Dieu veut qu'il y ait quelqu'un qui ne l'ait jamais invoqué dans cette église, la personne y sera. Si nous, nous obéissons à la parole de Dieu. Il fallait qu'il souffre beaucoup. Pourquoi? Pour que nous ne l'oublions jamais. Est-ce qu'on peut oublier le calvaire? Moi, je crois que oui. Que jamais je n'oublie, oh Dieu. Il fallait qu'il souffre beaucoup. Il ne faut pas oublier le calvaire. Pourquoi il y a tant de rétrogrades? Vous pouvez me dire pourquoi? Je ne sais pas, mais enfin, je pense que beaucoup ont oublié la croix. Parce que quand on est touché par la croix, ça ne vous encourage pas à abandonner Dieu. Bien au contraire, ça vous encourage à y rester au calvaire. Il fallait qu'il souffre beaucoup. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'une âme, votre vie, a énormément de valeur aux yeux de Dieu. Alors que si quelqu'un a vécu ce que je vais dire, ne vous traumatisez pas. Mais quand je vois comment certaines femmes, lorsqu'elles sont enceintes, s'occupent du bébé qui est dans le sein, je me demande quelle est la valeur de la vie aux yeux de ces femmes. Alors moi, je ne veux pas vous juger, je ne suis pas là pour ça d'ailleurs. Mais quand je vois Jésus qui dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? Vous avez de suite l'idée que Dieu donne, la valeur que Dieu donne à une âme. Une âme ! Alors je dis ça, j'ai pris l'image, c'est peut-être pas fin, mais je l'ai pris. Parce qu'il faut qu'on comprenne, frères et sœurs, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup parce que votre âme, vous entendez, la vôtre, la tienne, elle a de la valeur pour Dieu. Dieu, il vous veut avec lui pour l'éternité. C'est peut-être difficile à comprendre parce que nous, on n'est pas spirituel, il faut dire la vérité. Mais votre âme a plus de valeur que le monde entier. Tout ce qu'il y a dans le monde entier, mettez tout ce que vous voulez. Rien que les châteaux qui existent. Eh bien, ils ne savent rien du tout. C'est de la pierre et ça va brûler. Il ne restera rien alors que votre âme, elle est éternelle. Et ce sont des choses importantes. Pour ça, il fallait qu'il souffre beaucoup parce que c'était le seul moyen que nous obtenions le pardon des péchés. Alors, que répondons-nous ? Je termine ma prédication, bien sûr, même si je pourrais prêcher longtemps, certainement. Est-ce que je veux me laisser attirer par le calvaire ? Là, je viens de vous parler de la souffrance. Mais est-ce que dimanche prochain, si je suis là, est-ce que je peux vous parler de l'amour de Dieu ? Est-ce que l'amour de Dieu vous attire toujours ? Là, j'ai parlé de la souffrance. C'était bien que je parle de la souffrance de Jésus ? Est-ce que vous seriez d'accord que je prenne une prédication et que je prenne les textes qui nous parlent de l'amour de Jésus ? Est-ce que l'amour de Jésus vous attire toujours ? Ou est-ce que l'amour de Jésus... Non, j'ai pas mis d'idée de nom. L'amour de tel autre, c'est pareil. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu, il est éternel. Hier, ce matin, je priais, j'étais dans mon bureau, je me régalais de préparer ça pour vous. C'est pour vous. Je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si c'est vraiment correct, mais je vais vous le dire quand même. Je sais, en tous les cas, ce n'est pas biblique. Mais vous allez quand même comprendre quelque chose. C'est une image, j'espère que je ne vais pas me tromper. J'ai lu le texte où il est dit que quand Jésus a été crucifié, il y avait un gars qui revenait des champs. Il n'avait pas pris parti à toute cette affaire. Il s'appelait comment ? Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et je, franchement, vous savez que des fois, je me fais mes petits films. Et je le voyais marcher avec son petit sarclet sur l'épaule. Il revenait des champs, c'est écrit. Il venait de bêcher, peut-être de sarcler sa vigne, ses oliviers, je ne sais pas moi, ses figuiers, ses patates. Et tout d'un coup, alors que ce gars, je ne sais pas si c'est intéressé aux choses de Dieu, tout d'un coup, on l'oblige, on le prend de force et on l'oblige à porter la croix derrière Jésus. Et il va se retrouver confronté, certainement au regard du Seigneur, ça devait être... Imaginez-vous, le gars rentre des champs, je vais voir mes filles, je vais faire la sieste, je vais manger, je vais repartir, sarcler mes tomates. Et il se retrouve projeté dans la crucifixion du Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est extraordinaire. Et alors ce que je vais vous dire qui n'est pas biblique, c'est ça, c'est que je disais au Seigneur, mais Seigneur, mais force-nous. Est-ce que Dieu peut nous forcer ? Eh non. Il ne peut pas nous forcer. C'est un cas unique qui est intégré dans cette histoire, merveilleux dans cette histoire. Mais Dieu ne peut pas nous forcer. Et moi je dis, Seigneur, force-nous à tous les chrétiens de Sainte-Anne. C'est pour ça que je vous dis que ça ne tient pas debout. Parce que Dieu ne force personne. Si nous voulons porter la croix, nous le choisirons. Si nous voulons rester au calvaire, c'est un choix que nous ferons. Si nous voulons crucifier la chair, c'est un choix que nous ferons. Je le répète, le baptême du Saint-Esprit, c'est une chose, être crucifié avec Christ et vivre dans cette mort. Pour que sa vie se manifeste, n'oublions pas, il n'y a pas que le côté négatif. Là, je vous parle de manière neutre de la souffrance. La prochaine fois, peut-être que je ferai une prédication sur est-ce que au calvaire, l'amour de Dieu vous attire. On va prendre le pain et le vin. Est-ce que c'est bien? Eh oui, c'est bien. Alors, si nous voulons que Dieu fasse quelque chose, il faut revenir au calvaire, mes frères et sœurs. Je vais terminer avec une pensée qui est venue sur mon cœur hier. Je crois qu'il y a une joie de demeurer en Dieu. Vous le croyez qu'il y a une joie? Et je pense, alors je vais le dire en résumé, parce que ça serait l'objet d'une exhortation. Je pense vraiment que si les chrétiens, les croyants, les vrais disciples cherchaient la présence de Dieu comme Paul l'a fait, je suis persuadé que la joie véritable nous serait accordée et que ça réglerait le problème de la distraction des chrétiens. Alors moi, je ne veux pas juger, mais je pense que souvent nous avons cherché la joie dans le monde parce que nous ne l'avons pas obtenue auprès du Seigneur. Alors il n'y a pas dans mon esprit l'ombre de faire un procès à qui que ce soit, bien sûr que non. Mais mes frères et sœurs, on l'a chanté ce matin, si j'oubliais Gethsémané, on peut l'oublier. Dieu ne va pas nous accabler, on ne serait pas là. Si Dieu nous avait jugés, personne ne serait là. Mais Dieu nous aime. Et la prochaine fois, peut-être, je parlerai de l'amour de Jésus qui nous attire au calvaire. Mes frères et sœurs, vous le croyez qu'il y a une joie dans la présence de Dieu? Une grande joie, la source de la joie. Alors méditez, peut-être méditez les Galates. On va se recueillir. Est-ce qu'on peut se courber devant le Seigneur? Spirituellement, physiquement, c'est pas grave. Bien sûr, baisser la tête, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Oui, on ne peut pas forcer quelqu'un. Je ne sais pas comment Simon de Cyrène a vécu cette affaire. Tout ce qu'il a dû voir, oui, il a peut-être vu, peut-être il est resté. Il est resté jusqu'à la fin, je ne sais pas. Ce n'est pas écrit. Est-ce qu'il a vu Marie en train de pleurer? Jean en train de se poser des questions, sûrement. Je ne sais pas si vous vous posez des questions ce matin, si vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné le calvaire, je m'en suis servi juste pour entrer dans l'église. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai honte, je vous le dis franchement. 36 ans de conversion pour comprendre ça, j'ai quand même un peu honte, je vous le dis. Prions le Seigneur simplement. Et que la Sainte Cène soit une occasion de demeurer dans la mort du Seigneur. Oui, le vin rappelle la mort de Jésus. Le sang versé. Oui, il fallait qu'il souffre beaucoup pour toi, mon frère. Toi, pour qui le don spirituel s'est adressé tout à l'heure, toi qui ne t'es pas occupé de Dieu, repens-toi. C'est pour ça que Jésus a souffert beaucoup pour toi. Notre Père, nous savons tout ce que tu as subi au calvaire. Nous comprenons mieux. Et tu n'as rien dit. Tu as été blessé, brisé, maltraité, humilié, défiguré. Et tu n'as rien dit. Toi qui pouvais à l'instant même réclamer des milliers d'anges, tu n'as rien dit parce que tu nous aimes. Seigneur, nous voulons que ta vie se manifeste. Cette vie de grâce, d'abondance, cette approbation divine, nous la voulons dans l'Église. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.